Les mots de la culture, une émission proposée par Michel Théron.
Bonjour à tous. Voilà. Eh bien, nous continuons notre réflexion sur le destin des constructions symboliques qui sous-tendent les cultures. Je rappelle que je m'inspire de mon livre « Comprendre la culture générale » qui est sorti chez Ellipse à Paris et dont une version électronique sortira bientôt. Donc, nous avons vu que les cultures sont composées de constructions symboliques auxquelles les hommes croient naïvement, auxquelles ils apportent une adhésion affective et intellectuelle à la fois. Mais ce qui se passe, c'est qu'une fois que ces constructions symboliques sont installées dans les communautés humaines, eh bien l'intelligence va s'éveiller et va les détruire, va saper les fondements qui les sous-tendent. Et donc j'ai mis au chapitre 2 de mon ouvrage « Destin des constructions symboliques » la phrase suivante d'Elifor, qui est tirée de l'esprit des formes: tout se construit par le cœur et se détruit par l'intelligence. Alors, nous en sommes donc au XVIIIe siècle et nous pouvons regarder le lien qu'il y a entre les lumières, par exemple l'Aufklärung, les lumières de la raison justement, et la fragilisation de toutes ces constructions. Les lumières et le triomphe de la rationalité. Donc il s'agit d'une tentative cohérente, générale et systématique de destruction des constructions symboliques par méconnaissance délibérée de leur langage. Alors les figures ou constructions symboliques ne sont pas seulement confrontées à d'autres possibles et relativisés, comme on l'a vu lors des émissions précédentes avec Voltaire et Montesquieu, mais elles vont être complètement dévalorisées et ramenées à l'ignorance. Et l'instrument ou l'arme de la destruction, ça va être la rationalité. Prenez par exemple Fontenelle. Fontenelle, par l'attitude de son esprit, préfigure Auguste Comte et le positivisme du siècle suivant. Ainsi, dans le premier soir de ses entretiens sur la pluralité des mondes, il imagine qu'à l'opéra, les spectateurs voient un personnage qui est Phaéton et qui s'élève dans les airs. Alors les philosophes pré-cartésiens donnent de l'envol de Phaéton des explications toutes fantaisistes, du type « Phaéton n'est pas à l'aise s'il n'est pas dans le haut du théâtre » ou bien « il y a une certaine vertu ascendante qui enlève Phaéton ». Il s'agit des pièces de théâtre à machine, comme on disait autrefois, d'où vient l'expression « Deus ex machina », un dieu qui descend du sommet du théâtre à partir d'une machine. Alors reprenons notre exemple de Phaéton. Pourquoi s'élève-t-il? Eh bien, à la fin, dans l'assistance, il y a un petit spectateur qui est simplement un disciple de Descartes qui prend la parole. Et voici ce qu'il dit: « Phaéton monte parce qu'un corps plus lourd que lui descend ». Donc, il donne la vraie raison, la vraie cause ou raison, « causa si ueratio », la cause ou la raison. Et ainsi, Fontenelle conclut que l'on ne croit plus aujourd'hui qu'un corps se meut s'il n'est pas tiré ou poussé par d'autres corps, et il conclut que celui qui verrait correctement le spectacle de la nature ne ferait que voir le derrière ou les coulisses de l'opéra. Alors ça, c'est une attitude très intéressante et fondamentale. En effet, passer derrière la scène de la nature pour voir comment les choses se passent, ces choses dont on ne voit que le devant ou l'apparence, eh bien, c'était déjà l'ambition des matérialistes de l'Antiquité. La religion, par exemple, était censée venir de l'émerveillement ou de l'étonnement naïf devant le monde et aussi de la crainte qu'on éprouvait devant lui. C'est ce que dit l'adage latin « primus in orbe timor fecit Deus ». C'est-à-dire, c'est la crainte qui, au début, dans le monde, a créé les dieux. Alors voir les vraies causes ou raisons des choses, hein, c'est passer, pour reprendre la métaphore de Fontenelle, derrière la scène ou dans les coulisses de l'opéra. C'est voir les machinistes, c'est voir les câbles, les poulies. Donc cesser de s'étonner naïvement. Non pas s'étonner comme un sot, hein, ou admirer comme un sot, mais comprendre comme un savant. En latin, on disait « non ut stultus admirari, sed ut doctus intelligere », vous voyez. Donc la nature, c'est un peu comme un prestidigitateur ou un manipulateur dont on saisirait le coup, le truc, hein. Par exemple, Virgile nous dit dans ses Géorgiques, au livre 2, au vers 490-492, « Félix qui potuit rerum cognoscere causas, atque metus omnes et inexorabile fatum, subiecit pedibus, strepitumque aceronis avari. » Je l'ai dit en latin pour me faire plaisir, vous savez que je suis un ancien professeur de lettres. Donc, heureux, ça veut dire heureux celui qui a pu connaître les raisons des choses et qui a mis sous ses pieds toutes les craintes et l'inexorable destin et le bruit de l'Achéron vorace, vous voyez. Donc, fouler aux pieds l'ignorance, qui est la base de la religion, religion comprise, je le précise, comme superstition. Hein. Et c'était déjà l'apport d'Épicure, selon son disciple Lucrèce, hein, dans le De Natura Rerum, au chant 2, au vers 78-79, il nous dit « Quare religio pedibus subiecta vicissim obteritur, nos exaequat victoria caelo ». C'est-à-dire « Ainsi, la religion est-elle à son tour foulée aux pieds et broyée, et nous, sa victoire, nous élève jusqu'au ciel ». Alors, vous voyez comment se succèdent les cycles qui sont mentionnés au début de mon chapitre 2, c'est-à-dire dont nous avons parlé lors des précédentes émissions, hein. Les Lumières et le 19e siècle, avec le positivisme, vont réactiver un déterminisme strict qui est entrevu dans le monde antique même, hein. Qui nous montrait ce qui peut être et ce qui ne le peut pas, c'est ce que dit Lucrèce, hein, quid possit oriri, quid nequeat, ce qui peut être et qui ne le peut pas, et par quelle raison, quanam ratione, dit Lucrèce, hein, chaque chose a un pouvoir déterminé, finita potestas, vous voyez, dans matérialisme, déterminisme, rationalisme, ici sont réactualisées au XVIIIe siècle des positions qui ont été anciennement formulées à la lumière de la science moderne. Ces cycles, c'est une idée d'Elifort, hein, dans l'esprit des formes, hein, vous avez justement des moments dans l'histoire des hommes où le cœur seul parle avec les mythes, hein, et d'autres moments où alors on va revisiter cela, et très souvent pour la destruction de l'état antérieur des choses. Alors, les psaumes, par exemple, hein, dans la Bible, nous disent que les cieux et la terre racontent la gloire de Dieu. Hein, dans la Vulgate, il y a « Caeli et terra et naram gloriam Dei », vous voyez. Mais d'abord cette gloire, hein, la gloire de Dieu, les aveugles ne la voient pas, comme le dit Diderot dans sa lettre sur les aveugles. J'ai parlé de cette lettre sur les aveugles dans l'émission précédente. Et ensuite, la science rationnelle, au contraire, va réduire justement cette gloire de Dieu à des forces, à un pur jeu de mécanique. La compréhension des choses va détruire l'émerveillement naïf, car elle remplace l'idée de but ou de dessein, dessein EIN, le but, la finalité. C'est une idée qui est toujours plus ou moins projetée de façon animiste dans les choses. Elle va remplacer cette idée, la science moderne, par l'idée de nécessité la plus absolue. Je prends un exemple. On peut s'étonner, quand on est enfant, par exemple, que les nombres multiples de 9 font, si l'on additionne leurs chiffres, soit 9, soit un multiple de 9. Ainsi, dans 27, 2 et 7 font 9. Dans 36, 3 et 6 font 9, etc., etc. Ensuite, le mathématicien démontre que cette propriété soi-disant miraculeuse est nécessaire, qu'elle doit à jamais jamais résulté de la nature de ces nombres, que le contraire en est impossible. Alors, une fois qu'on est instruit de cela, quand on a été à l'école, par exemple, on va cesser de s'émerveiller comme un enfant sur cette propriété magique de ces nombres. Eh bien, devant notre nature, devant la nature que nous voyons, la nature extérieure, notre attitude va être la même. D'abord, on aura l'émerveillement naïf, et ensuite la compréhension de la nécessité des choses, vous voyez. Prenez par exemple la beauté de la biche, devant laquelle on s'extasie d'abord. Comme c'est beau une biche, eh bien la beauté n'existe que pour permettre à la biche, qui est ainsi profilée aérodynamiquement, de courir vite et d'échapper à la griffe et à la dent du lion. Si la biche était autrement constituée, elle n'existerait même pas. Donc l'idée de nécessité est mortifère pour celle de plan divin, comme par exemple Hume au XVIIIe siècle l'a souligné dans la 9e partie de ses dialogues sur la religion naturelle. Donc au lieu de nous émerveiller spontanément devant le prétendu ordre des êtres naturels, nous devrions comprendre qu'il leur était impossible d'admettre, fût-ce dans leur plus petit article, dans leur plus petit détail, aucune autre disposition. Vous voyez, donc tout ce qui existe est le fruit du hasard initial et de la nécessité la plus stricte. C'est ce que dit Jacques Monod dans Le hasard et la nécessité. Le darwinisme, par exemple, est tout entier exclusif de la finalité, hein, et il affirme la présence, alors ce sera au siècle suivant, bien sûr, hein, au XIXe siècle, il affirmera la présence dans le monde d'un hasard fondamental. Donc il n'y a pas de but, il n'y a que des causes. Donc ne voyons pas seulement la savane, par exemple, de jour, voyons la savane de nuit, comme dans le film de Frédéric Rossif, La griffe et la dent. Voyons aussi dans la fleur l'organe de reproduction de la plante, etc., etc. Nous comprendrons alors le pourquoi des beautés de la nature et nous cesserons de croire, comme Bernardin de Saint-Pierre le faisait encore, hein, aux harmonies de la nature. Car ces beautés, justement, de la nature ne sont pour les choses elles-mêmes que de strictes possibilités d'existence. Elles doivent être telles qu'elles sont, car si elles étaient autrement, hein, les choses, elles ne pourraient pas seulement être, elles ne pourraient pas seulement exister. Revenons à cette idée de hasard. Les constructions symboliques avaient pour fonction de finaliser la vie, de lui donner un but, une signification, une direction. Quand je dis donner un sens, sens a les deux sens du mot sens, c'est-à-dire la signification et la direction. Donc les constructions symboliques niaient le hasard, hein. Elles disaient justement que nous sommes sur la terre pour tel ou tel but, en vue de telle ou telle finalité. Alors, surtout ne nous méprenons pas sur ce mot de hasard. Le hasard, ce n'est pas la contingence. La contingence n'est due qu'à notre ignorance, hein. Le hasard est simplement... absence de finalité, il n'est pas absence de causalité. Hein. La contingence, Spinoza nous dit, « Nulla res alia de causa contingens dicitur, nisi respectu defectus nostre cognitionis », c'est-à-dire dans l'éthique. Hein. Aucune chose n'est dite contingente, sinon par rapport à l'imperfection de notre connaissance, vous voyez. Donc la contingence, c'est la négation des causes. Ce n'est pas de cela qu'il est question. Hein. Une chose arrive par hasard, non pas parce qu'elle arrive sans cause, mais parce qu'elle arrive indépendamment de nos désirs. Hein. Et Spinoza dit de même, dit bien dans l'éthique, à propos de ce qu'on appelait autrefois les causes finales, il dit « Ce qu'on appelle cause finale n'est que le désir humain considéré comme étant à la base d'une chose. Nous avons le désir que les choses aient un sens, hein, une finalité, un but, et finalement c'est ce désir qui fonde la finalité. Alors, les constructions symboliques s'appuyant sur la rationalité, sur la science positive, par exemple, eh bien, définalisent les choses en montrant qu'elles ne sont là que en vertu de telle ou telle cause, par exemple la sélection naturelle pour Darwin au XIXe siècle, etc. Hein. Alors, qu'est-ce que cela veut dire définaliser la vie? C'est être intelligent, bien sûr, c'est voir la vraie cause ou raison des choses, hein, mais c'est dangereux. La définalisation de l'existence n'est pas sans péril, hein, puisque je viens de dire que beaucoup de dispositifs culturels visent en effet à finaliser la vie pour en supprimer l'absurdité. Prenez par exemple le symbole de Nicée chrétien. Il nous dit que le Christ est descendu des cieux pour nous les hommes et pour notre salut. Hein. Je le dis en latin, qui propter nos homines et propter nostram salutem descendit de caelis. Hein. Qui pour nous les hommes et pour notre salut est descendu des cieux. Bon, cela permet aux hommes d'espérer, hein, exactement comme de croire au Père Noël, dont la venue, hein, la parousie du Père Noël, puisque nous sommes en période de l'Avent, hein, la venue offre du Père Noël offre une structure et une formulation semblables, comme le dit la chanson, hein, chantée par Tino Rossi. « Mais avant de partir, il faudra bien te couvrir. Dehors, tu vas avoir si froid. C'est un peu à cause de moi, hein, d'un petit Papa Noël. » Alors, à cause de moi, vous voyez la cause finale, finalement. Bon, alors, voyez aussi la strophe du Dies Irae. Hein, « Recordare Iesu pie, quod sum causa tue uie, ne me perdas illa die. » C'est-à-dire, « Souviens-toi, toi, pieux Jésus, que je suis cause de ta venue, ne me perds pas ce jour-là, le jour du jugement. » Alors j'espère que vous, auditeurs, vous n'êtes pas choqués par le fait que je compare un article du symbole de Nicée à Petit Papa Noël. Je pense qu'il faut tenir compte de l'humour, hein, et que ceux qui ne rient jamais ne sont pas vraiment des gens sérieux, vous voyez. Alors, si cette finalisation de la vie, hein, Petit Papa Noël, etc., descendu des cieux pour moi, bon, disparaît, qu'est-ce que je vais faire? Je vais me penser comme un simple accident génétique, comme la rencontre aléatoire d'un spermatozoïde plus sprinter que les autres, et d'un ovule, hein, et cela peut me déstabiliser. Penser qu'on vienne de ses parents de cette façon est insupportable, puisque l'enfant se veut toujours unique, il se veut attendu, il se veut désiré exclusivement par ses parents, au risque évidemment de paranoïa. Hein. Mais s'il pense qu'il n'est que la rencontre d'un spermatozoïde et d'un ovule, rencontre qui aurait pu ne pas se produire, bien sûr, alors l'enfant peut être détruit. Et en l'adulte, l'enfant qu'il est toujours, si vous voulez. Hein. De toute façon, cette position est la même qu'on déteste ses parents ou qu'on les aime. Hein. Je dirais, pour agrandir la question, hein, que la pure vision froide de l'origine, ce dont nous venons, est toujours mortifère. De même que la vision de Dieu. Hein. « Nul ne peut me voir et vivre, dit Dieu, dans la Bible juive. » C'est dans l'Exode, chapitre 33, verset 20. Hein. Voir la scène originaire, comme disait Freud, c'est-à-dire voir ses parents en train de faire l'amour, hein, peut détruire complètement un enfant. Hein, puisque cette vision directe va définaliser par principe, sans doute en décontextualisant les choses. Hein, et cela est propre à l'acte même de voir. Hein. On peut tuer quelqu'un en lui montrant d'où il vient. Hein. Donc, je répète, quand Freud analyse la scène originaire comme destructrice, eh bien, il a raison, hein. Alors, on peut, quand on voit ses parents faisant l'amour, ça peut être de façon effective, comme au début du film de Carlos Saura qui s'appelle Cria Cuervos, hein. On peut aussi voir l'origine symbolique, hein. Voyez le film de Kieslowski, bref, histoire d'amour, hein. L'amour, ce n'est que cela et rien d'autre. Entendez le sexe nu, hein. C'est ce que dit l'héroïne désenchantée dans ce film, au jeune homme qu'il aime d'un amour très pur, et elle va le détruire, ce jeune homme idéaliste, qui est amoureux d'elle, hein, en lui disant « l'amour n'est que du sexe ». Donc la culture met toujours un voile pudique sur la nature nue, si vous voulez. L'origine, on ne peut pas la voir. Alors vous savez que le tableau de Courbet, « L'origine du monde », fasciné et sidéré, il médusait, hein. Lacan, le psychanalyste, dissimulait ce tableau, hein. Alors, prenez au contraire les nativités en peinture, qui sont des constructions culturelles. Elles finalisent, hein, puisqu'elles poétisent justement l'acte de la naissance, et finalement, elles font rêver, hein. Mais au contraire, l'échographie, c'est-à-dire la vision nue, hein, de l'embryon, hein, définalise, car ce qui est montré dans l'échographie n'a pas de référent antérieur qui puisse assurer une représentation au sens théâtral du mot, une mise en scène, vous voyez, hein. C'est, je dirais, une IVF, c'est-à-dire une interruption volontaire de fantasme, hein. Et un jour, que j'ai entendu dire de la bouche de quelqu'un qui récusait les échographies, qui n'en voulait pas, il disait, il n'en faut pas, parce que sinon, Dieu aurait fait des ventres transparents. Eh bien, derrière la naïveté de cette phrase, il y a une profonde vérité. En fait, les faits nus, hein, non poétisés, non mis en scène, non représentés, peuvent nous tuer, nous détruire. Hein. Nous avons besoin des faits F-E-S, hein, et non pas des faits F-A-I-T-S, si vous voulez. Hein. Vous savez, l'homme peut supporter beaucoup de choses dans sa vie, hein, mais il s'effondre si on lui dit, comme Shakespeare le dit dans Macbeth, que la vie est une histoire pleine de bruit et de fureur, racontée par un idiot et ne signifiant rien. Alors ce nihilisme donc est destructeur. Je crois que on a toujours besoin de relais, de médiation, on a toujours besoin, face à la réalité crue et nue, de dispositifs qui nous donnent le courage de l'accepter. Hein. Alors que ces dispositifs soient illusoires, après tout, hein. Bon, bulle de savon pour bulle de savon, mieux vaut peut-être que la bulle soit irisée plutôt qu'elle soit grise, si vous voulez. Hein. Voilà, donc l'homme descend du songe, vous voyez, Darwin dira au siècle suivant que l'homme descend du singe, enfin, je caricature bien sûr. Moi je pense que l'homme descend du songe, hein, et qu'il peuple la nuit de sa vie par ces petites flammes qui sont ses propres fictions, hein, comme la petite fille aux allumettes de dans le conte d'Andersen, si vous voulez, hein. Donc, par ces mythes, ces fictions, eh bien, l'homme se réchauffe à ses flammes, hein. Hélas, à la fin, il n'y a plus d'allumettes et c'est le noir qui l'emporte, vous voyez, hein. Donc, mais dans la vie, dans le noir de la vie, nous avons besoin de ces petites lueurs. Ou bien, je prends encore un dernier exemple, celui de Scheherazade dans Les Mille et Une Nuits. Scheherazade raconte tous les soirs au roi qui peut la faire tuer, qui peut la faire mourir, hein, une fiction, une histoire, et la suite au prochain numéro. Donc elle recule le moment de la mort, hein. Donc nous parlons devant la mort comme le causeur adossé à sa cheminée, disait Paul Valéry. Donc nous descend, l'homme descend du songe, hein, et il est détruit justement quand on lui montre justement peut-être sa réalité. Alors bien entendu, il faut prendre tout cela avec son côté caricatural, hein. Je ne suis pas du tout contre la science, mais si la science détruit l'émerveillement, c'est un petit peu dommage. Voilà, je vous donne rendez-vous à la prochaine émission pour continuer l'enquête sur cette question. Au revoir.
Retrouvez Michel Théron sur son blog www.michel-théron.fr.